Nous vous prions d'écouter Charles-Albert Saint-Grillat à Paris, une émission de Pierre Minet, dont nous vous présentons aujourd'hui la première partie avec Mérode Guevara, Georges Huniet, Georges Borgeau, Madeleine Bariatinski, Jean-Marie Dunoyer, Yvonne Rebetet, Jean Follin, Ernest Galinon, Hélène Saint-Grillat et la voix de Charles-Albert Saint-Grillat.
La réalisation de cette émission, qui est un hommage à ce grand écrivain né à Genève en 1883 et mort dans cette même ville en 1954, a été confiée à Michel Duplessis.
Pierre Minet vous parle.
S'il me fallait définir d'un mot Charles-Albert Saint-Grillat, je dirais que pour moi, il a été un émerveilleur. Plus précisément encore, l'émerveilleur. Car personne ne lui ressemblait. Pas même Marc Jacob, qui le valait en esprit et le dépassait peut-être en profondeur, mais qui n'avait pas comme lui cette manière pyramidale d'extérioriser son génie. En le perdant, Paris s'est beaucoup appauvri. Pour nous tous qui fûmes ses amis, le voir surgir puis l'écouter, c'était soudain découvrir à la ville une dimension nouvelle, lui prêter le pouvoir d'aimer et prendre à sa caresse un plaisir incomparable. Oui, que ce fût au café ou dans la rue, chez soi ou chez les autres, rencontrer Charles-Albert équivalait à une métamorphose. L'existence s'épanouissait tout à coup, et les instants ainsi vécus regorgeaient de trésors. Pour ouvrir en quelque sorte cette émission, j'ai choisi de m'adresser à quelqu'un qui a beaucoup connu Charles-Albert Saint-Grillat et qui, durant les derniers mois de sa vie, a très affectueusement veillé sur lui. Je savais que Mme Mérode Guevara parlerait de Charles-Albert avec toute la simplicité, mais aussi toute l'intelligence requise.
Ce n'est pas facile pour moi de vous parler de mon amitié avec Saint-Grillat, parce que c'était une amitié si intime. Pas du tout comme on conçoit une amitié entre un homme et une femme, ni même entre un frère et une sœur. C'était plutôt comme une amitié entre deux enfants qui s'amusaient beaucoup quand ils étaient ensemble. Saint-Grillat était à la fois très simple et très complexe. Complexe à cause de son intelligence, son génie et de sa grande érudition. À côté de cela, il était d'une simplicité quasi enfantine dans la vie quotidienne. Ses qualités d'ailleurs transpercent dans son œuvre. Une simple promenade, à pied ou à bicyclette, peut se transformer en une aventure passionnante à cause de son observation si juste des moindres détails. Quand j'étais avec lui, j'avais l'impression de vivre dans ce même vaste univers où chaque événement et chaque objet avait son caractère et sa place. Je crois qu'une des périodes les plus heureuses de ma vie était quand nous étions tous les deux dans un petit appartement à Aix, cours Mirabeau, au-dessus des platanes. On avait de nombreux amis à Aix et la vie était si légère. On travaillait un peu et Charles-Albert se promenait beaucoup. Toujours seul. Il ne voulait pas qu'on l'accompagne. Il fallait être seul pour flâner à sa guise, marcher vite ou lentement, s'arrêter un moment pour regarder quelque chose dans la rue ou dans une vitrine et pouvoir choisir son parcours au hasard du moment. Et après, on se retrouvait au repas. Pendant ces repas, la conversation de Charles-Albert était si brillante, même quand on était seul, que j'avais l'impression qu'il tombait des bijoux de sa bouche et que tous ces bijoux tombaient sur la modeste table en bois blanc et se répandaient par terre et partout dans ma petite cuisine. Et je pensais que j'étais la femme la plus riche du monde, car qui d'autre pouvait se payer un luxe pareil? Un grand problème pour Saint-Grillat était Comment pouvait-on vivre sans argent? Car il gagnait très peu avec ses écrits si précieux et si concentrés. Mais il arrivait à vivre avec presque rien. Je crois que l'argent n'existait pour lui que comme une commodité qu'on a dans sa poche pour acheter des bonbons. À vrai dire, il ne s'achetait jamais de bonbons, mais de petits verres de vin blanc à droite et à gauche dans des coins bien choisis. Je parle de ces détails pour essayer de donner une idée de la dimension peu commune chez cet homme de génie, si profond et si simple. L'éternel enfant est le philosophe érudit, l'historien, le musicien, à la fois modeste et agressive, jamais sucré. Je n'ai pas parlé de cette agressivité. C'était qu'il était capable de réduire un adversaire en une poussière de ridicule dans une seule phrase. Ce que je veux dire, c'est que je suis contente que cette émission se fait pour que le public connaisse un peu ce sublime écrivain dont les œuvres risquent de disparaître. Certes, il ne sera jamais compris par le grand public, mais uniquement par une toute petite élite. Mais comment atteindre cette élite qui se trouve partout, éparpillée à travers le monde? Car Saint-Gréa avait quelque chose de très grand et de très important à lui dire. Écouter une conversation de Charles Albert était comme de boire un grand verre de champagne. Vivre avec Charles Albert était une expérience inoubliable. Il ne reste que son œuvre, aujourd'hui introuvable. J'espère de tout mon cœur qu'on va la rééditer.
Notons que, grâce au magnifique travail de Madame Perron, qui est parvenue à rassembler tous les textes, puis à l'association des amis de Saint-Gréa et de sa nièce Madame Mellet, cette œuvre complète, va bientôt paraître. Et maintenant, nous tous qui connûmes Charles Albert, laissons-nous gagner par l'émotion de le réentendre. Car voici sa voix, voici sa parole, enregistrée à Paris en janvier 1954. Dans les propos qu'il tient ici, j'assure qu'on le retrouve tout entier.
C'est mon tour, hélas. D'autres contraires qui attendaient cela impatiemment disent « enfin ». Il y a des gens qui me comprennent, qui à me voir me comprennent tout de suite, et savent combien il est peu de ma nature de souhaiter faire partie d'une série des talents les plus éminents de notre époque. Ce que je dis là est tout à fait sincère. Rien ne peut m'être plus indifférent que le succès dans ce qui définit la satisfaction d'une vanité. Est-ce de la modestie? Non. Ou peut-être de la dissimulation, de l'orgueil? Nullement. Est-ce du mérite à cela? Aucun. Il y a alors une raison là-dedans. Certes, elle est simple. Si la vanité est absente chez moi au point que c'est presque une anomalie, c'est que les satisfactions qu'elle pourrait me procurer ne sont rien auprès de celles que procure la vie, la simple vie, pour celui qui a des sens, et la registration qu'acquiert et requiert une incessante joie poétique. L'aventure est partout. Chaque instant qu'on lui soustrait, on vous le vole. Les gens veulent vous honorer, ils vous intoxiquent. Ce que vous voulez, c'est l'anonymat, une possibilité de vous perdre, de ne plus savoir même qui vous êtes, en tout cas, qu'il vous serait rendu aucun mérite, à part ceux que définit l'immédiate, de la part de ceux qui ne savent rien de vous. ni ce que vous aurez fait, ni ce que vous ferez ou êtes capable de faire.
Rares sont les amis de Charles-Albert Saint-Grillat qui ont pénétré chez lui. Jean Vrunier.
Lorsque j'ai connu Charles-Albert, il habitait, 59 rue Bonaparte, une chambre au dernier étage avec l'eau sur le palier. Et vers 1932, il eut la chance de pouvoir occuper une deuxième pièce. Dans cette pièce, il rangeait sa bicyclette. Qu'il était donc obligé de monter jusqu'à cet étage. Il accrochait cette bicyclette au plafond, au-dessus d'un clavecin. Il possédait encore à cette époque-là le clavecin de Boïel-Dieu, qu'il céda par la suite à un de mes amis américains. Il avait aussi un virginal qu'il transportait volontiers sur son dos dans un sac de marin et qu'il emmenait chez ses amis afin d'y jouer les musiciens qu'il aimait. À part cela, que dire de cette chambre qui était encombrée, pleine de poussière, sinon que lorsqu'il écrivait, il avait pour manie de jeter dans son tub les feuilles de manuscrits dont l'encre n'était pas encore sèche, et que parfois ses voisins, pour lui faire des blagues, lorsqu'il prenait une douche et qu'il était obligé d'aller chercher l'eau sur le palier, mettait le pied sur le tuyau de caoutchouc qui traînait sur le palier, que Charles-Albert pensait sa pomme d'arrosoir bouchée, et que lorsque ses voisins retiraient le pied, il recevait tout dans la figure. C'était un véritable gag de Charlot. Mais je crois que Borgeot, maintenant, a beaucoup plus de choses que moi à dire encore.
J'ai connu sa chambre après la guerre. Il m'y avait amené avec beaucoup de mystère. Et ce qu'il aimait énormément dans sa chambre, c'était la poussière que les années d'occupation avaient accumulée. Et il me disait, ne ferme pas trop fort la porte pour qu'elle ne s'en aille pas. C'est comme les tombeaux égyptiens. Et naturellement, la pauvreté était immense, toujours. La bicyclette était toujours suspendue à des crocs de boucher. Mais il me disait, il avait mis avec des punaises des papiers d'étain jaune et argent. Et il disait, voilà tout mon argent. Mais Georges Vrunier, vous m'avez raconté des choses tout à fait habituelles à Charles-Albert. C'était un homme qui aimait profondément le feu et qui avait déjà eu pas mal d'ennuis à la rue Bonaparte avec ses poils.
Et le feu a joué un rôle dans la vie de Charles-Albert. Il a été un petit peu poursuivi par cela. Parce que, par exemple, quand il vint à Paris, il habita une première fois à Montmartre, 2 rue Gabriel. C'est vraisemblablement là qu'il fit la connaissance de Mac Jacob. Mais là, il n'eut pas de mésaventure avec le feu. Par contre, quelques années plus tard, il habita, boulevard Victor, près de la porte de Versailles, une chambre. Et cette chambre lui avait été prêtée par la sœur de son jeune ami, Vladimir Péclar Smirnov, dont il a d'ailleurs fait un des principaux personnages de son livre « Les autobiographies de Brunon Pomposo ». Et dans cette chambre, il en fut un jour expulsé violemment, parce que il avait tout simplement eu l'idée de découper dans le tapis un petit carré qui mettait le parquet à nu. Il avait installé dans cette ouverture un brasero auquel il se chauffait et qui lui servait de cuisinière. Et ce jour-là, des fumées particulièrement épaisses s'échappaient de sa fenêtre qui alertèrent les voisins. Même dans l'escalier, il y avait de la fumée. Et on trouva Charles-Albert assis à la turque devant une théière qui pendait au-dessus de son brasero. Et il fut très étonné d'avoir provoqué tant de scandales, mais naturellement, il dut quitter la chambre, inutile de le dire. Il adorait sa bicyclette, Il se donnait le mal de la monter jusque chez lui et de l'accrocher au plafond, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et il aimait tellement cette bicyclette qu'il l'ornait, parfois tout à fait inutilement, de papier adhésif rouge pour que ça fasse plus joli. Et quand il allait se promener au printemps avec cette bicyclette dans les environs de Paris ou même ailleurs, parfois il faisait d'assez longs trajets, il n'oubliait pas d'emporter une petite valise qu'il fixait sur son porte-bagages. Et cette valise contenait principalement des plaquettes de fil à repriser, des aiguilles, naturellement, de quoi coudre, une ou deux paires de chaussettes de rechange et surtout un réveil. Et lorsqu'il trouvait un endroit à sa convenance, au bord de l'eau, comme ça, l'herbe, l'ombre, et qu'il projetait de se reposer, il sortait son réveil, le remontait à l'heure à laquelle il avait projeté de repartir pour un autre rendez-vous, et s'endormait, comme ça, en plein jour, à côté de son réveil.
Vous avez oublié tout de même les rustines, parce qu'il avait toujours peur des pannes, une peur panique des pannes. Et puis, son costume de bain, qui était très délavé, parce qu'il le lavait toujours avec du savon de Marseille. D'ailleurs, il était un nageur excellent et un rameur émérite. Il assistait souvent à des fêtes nautiques au bord du lac Léman.
Nous ne quitterons pas la rue Bonaparte sans avoir rendu visite à Madame Berthe, la concierge de l'immeuble, qui à plus de 92 ans conserve de Charles Albert un souvenir précis. C'est plaisir que de converser avec elle. Très vivante malgré son grand âge, parlant encore admirablement, c'est une personne aimable, fine, soucieuse de bien faire et passablement philosophe.
C'était au commencement de novembre, un soir on frappe, je dis entrer, je m'approche et je vois un monsieur d'un certain âge qui me dit « Madame, je suis monsieur Saint-Gria, je viens chercher les clés du petit studio que je vais occuper. » Je lui remets les clés, je l'ai trouvé très sympathique. Il l'était en effet, étant donné que le lendemain, il est venu pour me donner sa carte et me dire qu'il était écrivain. Puis les mois ont passé, et nous étions devenus de bons amis. Il restait quelques jours absent, et quand il revenait, il me disait « À présent, au travail !» Ses bouquins, ses articles étaient sa vie. Ses belles années passaient. Depuis quelque temps, ce n'était plus lui. Il dépérissait de jour en jour. Je n'osais le lui dire. Mais un soir, il rentra bien fatigué et il me dit « Je vais vous quitter. Une amie de Lausanne envoie son fils me chercher demain matin. Je pars à 8h. » J'étais peinée, mais à l'idée qu'il partait pour se soigner, j'en éprouvais un soulagement. À 8h, une voiture confortable vint le chercher avec le fils de cette dame. Et il eut beaucoup de peine pour monter dans la voiture. Je l'ai arrangé de mon mieux. Nous nous sommes serrés la main et la voiture est partie. Mon cher ami, je ne le reverrai plus. C'était vrai. 2 mois après, j'apprenais par la dame que cet homme au grand cœur nous avait quittés.
Inutile de rappeler la place que le café a tenue dans la vie de Charles-Albert Saint-Gria. Sa présence en faisait un lieu hautement privilégié, tout retentissant du chef-d'œuvre que sa conversation était. Charles-Albert Saint-Gria allait partout, mais il préférait de beaucoup les cafés de la rue des Canettes, chez Lorenzi et chez M. Gargantini, que Madeleine Bariatinski, que les auditeurs de Radio Lausanne connaissent bien pour l'entendre souvent, et Jean-Marie Dunoyer, écrivain, vont évoquer maintenant.
Rue des Canettes. Ce vieil imperméable de taffetas gris que Charles-Albert Saint-Gria revêtait, nous dit-il, pour ses promenades matinales, ce vieil imperméable autrefois luxueux, comme tout ce que portait Saint-Gria, souvenons-nous de ses étourdissantes chaussettes écossaises, combien de fois nous l'avons rencontré dans ce quadrilatère formé par la place Saint-Sulpice, la rue Bonaparte, la rue du Four, et précisément la rue des Canettes. Combien de fois, après la disparition de Saint-Gria en 1954, n'avons-nous pas cru le voir surgir à l'un de ses tournants, car il était presque impossible de concevoir la mort d'un tel être qui avait toujours représenté pour nous un comble de vie.
Oui, personne n'était plus éclatant de vie. Pourtant, vous le savez, il était fasciné par le spectre de la maladie et de la mort. Chose curieuse, ce n'est que dans ses écrits que se révèle cette veine sombre qui jamais ou presque n'apparaissait dans sa conversation.
Cette conversation, feu d'artifice d'images, de connaissances, de vues du plus haut cocasse ou tellement dense et profonde, de coq à l'âne, de saillies, de rires immenses, on ne peut la comparer qu'à celle de Fargue, et qui sait si cette comparaison leur aurait plu.
Ils ont un autre point commun, leur aisance, leur naturel avec les gens simples. « Comment est-ce que je commence la matinée à Paris ?» écrit Saint-Gria. « D'une façon toujours identique et c'est délicieux. Je sais que ce ne sera pas éternel, mais rien non plus de ce qui est charnel et osseux animé de vie. Donc, je ne me laisse pas glacer par l'irrévocable. Je reviens à ce que je disais, que les matinées, surtout celles-là, comme sont les miennes à Paris, sont délicieuses. Si c'était ailleurs, je ne sais ce qui se passerait. C'est pourquoi il n'y a que Paris. »
Et alors comment ces allées et venues dans les rues que j'ai nommées, tandis que se prépare à son cinquième étage l'eau pour le thé, sous, nous dit-il, le rugissement de scarabée affolé de son fourneau norvégien, lequel d'un instant à l'autre pourrait éclater, ce qui serait le plus affreux des astres. Cependant, cela ne se produit jamais, et à cet échantillon d'impunité, j'en suppose d'autres et je m'endurcis. Tout Saint-Gria n'est-il pas dans cette phrase? Lui qui, à Paris et ailleurs, a opposé tant de courage à tant de circonstances contraires.
Et c'est précisément dans un bistrot de la rue des Canettes que je l'ai rencontré pour la dernière fois à Paris avant sa mort. Il était déjà très malade, et Edmond Humeau et moi, nous avons dû l'aider à remonter à son cinquième étage.
Il y avait le café, mais aussi et tout autant le restaurant, où partageait le repas de Charles-Albert Saint-Gria, et qui valait à doublement manger. Car avec lui, l'esprit dévorait au même rythme que des mâchoires. On vous a dit qu'il était très gourmand. En vérité, il connaissait admirablement la cuisine et en parlait mieux encore. Pour évoquer Charles-Albert Saint-Gria à table, j'ai réuni Madame Yvonne Rebetet, qui après avoir tenu un restaurant rue Saint-Sulpice, s'est installée 14 rue des Vallons, et Jean Follin. Madame Rebetet, voulez-vous nous dire comment Charles-Albert Saint-Gria concevait la cuisine?
Il aimait la cuisine, bien sûr. Il aimait bien être invité de temps en temps. Il aimait bien la bonne chère, mais de temps en temps, il voulait se la faire. Alors, un jour, il nous a fait rire parce qu'il a raconté une histoire. Il avait fait des carottes et alors, comme elles cuisaient pas assez vite, il les mangeait toutes crues. Il les avait mises debout dans sa casserole. Il pensait que ça allait cuire debout. Mais alors, comme elle ne cuisait pas, il les a mangées toutes crues. Puis il est allé se taper la cloche après au restaurant.
Quels étaient ses plats préférés, vous souvenez-vous?
Oh, vous savez, tous les plats étaient préférés. Quand il fallait se mettre à table, il aimait tout. Il était gourmand.
Je passe la parole maintenant à Jean Follin, qui va nous évoquer le restaurant des Sœurs Morazin et celui d'abord du Vieux Paris où siégeaient monsieur et madame Bourbon.
Et dans ce restaurant du Vieux Paris, nous nous sommes assez souvent retrouvés, Pierre Minet et moi, et Saint-Gria. C'était un établissement qui existe toujours, mais qui est très défiguré maintenant, quoi qu'il soit, que les patrons en soient encore très gentils, mais enfin c'est un restaurant qui n'a plus l'allure qu'il avait à ce moment-là. À ce moment-là, c'était un des nombreux bistrots à plat du jour que comportait encore Paris, devenu très rare, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un plat, n'est-ce pas par jour, par repas. Et alors, si on n'aimait pas ce plat, à la rigueur, on pouvait avoir une omelette ou des œufs sur le plat, mais faute de si on n'aimait pas le plat en cause, mais il n'y avait généralement qu'un plat. C'était le plus beau zinc de Paris. Les Allemands l'ont enlevé. Mais alors, Saint-Gria admirait beaucoup le zinc de chez Bourbon. C'était un vrai zinc, en véritable, pas en zinc, parce que le zinc est une expression, comme vous savez, populaire. Mais c'était un comptoir d'étain, et de très bel étain, où étaient sculptés, n'est-ce pas, des pampres et des grappes de raisin. C'était vraiment un restaurant où on se sentait à l'aise. On faisait venir de très vieilles bouteilles de la cave qui ne coûtaient presque rien, qui étaient très peu consommées. C'était toujours face que nous payions des bouteilles semblables. On y trouvait aussi de vieux ouvriers, une vieille clientèle qui parlait un langage que Saint-Gria, je me souviens très bien d'avoir été un jour avec Saint-Gria,
Je ne sais pas si Pierre Minet était là, peut-être pas là ce jour-là. Et nous avons entendu un vieil ouvrier qui parlait le langage des vieux restaurants de Paris, des vieux restaurants plats du jour, qui était un langage incroyable. Et alors, il y avait souvent du bœuf bouilli, n'est-ce pas, chez Bourbon. Et on le servait avec des frites, parce que le légume du pot-au-feu était très vite épuisé, et on le servait avec des frites. Et alors, dans le langage de l'homme, c'est un langage que personne ne comprendrait plus, mais que Bourbon comprenait très bien. Et alors, le bonhomme qui voulait commander un bœuf bouilli maigre aux frites, Bourbon lui demande, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il tutoyait ses clients. Et alors, le bonhomme a voulu dire qu'il voulait un bœuf maigre aux frites, et il a répondu, oh, ben donne-moi un maigriot décoré.
Maintenant, il faut parler des sœurs Morazin.
Les sœurs Morazin... Saint-Gria y venait, mais alors toujours suivi, ou presque toujours suivi, de son inséparable ami Abdul Wahab. Il venait assez souvent chez les sœurs Morazin, parce que, à la différence de chez Bourbon, car Bourbon n'était pas un homme à faire crédit. Les sœurs Morazin, au contraire, faisaient à Saint-Gria un très large crédit. Et alors, il pouvait manger à n'importe quel moment, même démuni d'argent. Il avait toujours moyen de manger chez les sœurs Morazin. Dans leur pas, 10 francs, c'est pas qu'il était très plantureux. Le vin était à discrétion, ce qui est déjà pas mal, complètement à discrétion. Mais ce qui est plus beau encore, toujours pour les 10 francs, à la fin du repas, le calvados apparaissait à discrétion et venant directement de Normandie en carafe.
Et te souviens-tu, Jean, des plats qu'il préférait? Je voudrais pouvoir dire aux auditeurs ce qu'il aimait surtout à manger.
Oui, alors là... Ma mémoire est un peu infidèle, mais je sais qu'il appréciait ce que malheureusement trop de gens n'apprécient plus parce que les médecins vous font grief d'en manger. Et il appréciait le plat en sauce, le plat français en sauce.
Le bourguignon.
Et il a brossé le bourguignon, les ragoûts forts. Et les ragoûts forts auxquels on ajoute du vin, puisque dans le bœuf bourguignon, c'est un ragoût au vin, n'est-ce pas? Il aimait beaucoup la vieille sauce au vin française, qui existe aussi bien dans le civet de Lièvre. Et alors, lui comme moi, nous en avons discuté, et il était abominablement... Il se mettait volontiers en fureur, comme moi d'ailleurs, quand il voyait sur les cartes de restaurants civet de Lièvre, et alors, ou civet de lapin, et que... Alors, quand je voyais ça dans une caméra, je ne parle pas chez les sœurs Morazin, qui est toujours respectueux de la terminologie, mais quand ailleurs, même dans un restaurant pas mal, on voyait civet de lapin, on appelait la patronne et on lui demandait quand même, vous êtes sûr que c'est un civet? Oui, monsieur. Alors, il y a du vin dedans. Oui, monsieur, il y a du vin, justement, c'est un civet. Mais est-ce qu'il y a le sang du lapin? Et alors, la patronne nous répondait, ah non, on ne peut pas, vous savez, à Paris, avoir le sang. N'est-ce pas, on ne peut pas. Alors je tapais sur la table et je disais, mais c'est pas un civet. Car Montagnier l'a dit et répété, pas de civet sans sang.
Monsieur Ernest Gadinon a lui aussi souvent servi Charles-Albert Saint-Gria au restaurant des Charpentiers, rue Mavillon. Dites-moi, monsieur Gadinon, voulez-vous d'abord me dire l'impression que vous faisiez Charles-Albert et l'impression que vous en avez conservée?
J'ai un très bon souvenir de monsieur Saint-Gria. Il m'a fait, dès la première fois qu'il est venu au restaurant, une très bonne impression. Une impression simple, une impression amicale, avec qui on pouvait parler librement, et je me suis senti à l'aise tout de suite avec lui.
Et vous avez dû sympathiser avec lui parce que vous avez compris que c'était un savant, c'est-à-dire un homme spécialisé dans bien des matières qui vous intéressent également, puisque je crois que vous êtes archéologue et géographe.
J'ai eu pour lui une estime profonde, une grande admiration, et il était très content de venir au restaurant, non seulement pour manger des belles choses, mais aussi pour me questionner et s'intéresser à moi sur mes questions de géographie ou de fouilles romaines dans les 60e pays de ma femme. Et puis il était très content. Il a amené aussi beaucoup d'amis avec lui. Et ça faisait une très bonne ambiance parfaite.
Est-ce que vous êtes jamais allé avec lui en faire des fouilles?
Non, jamais. Mes relations avec lui se sont bornées, n'est-ce pas, que de maître d'hôtel à client.
Est-ce que vous avez jamais rencontré un homme plus gai, plus expansif, merveilleusement présent?
Oh, ça non, c'était le client le plus parfait, vraiment gentil et vraiment intéressant.
Et M. Gadinon, maintenant que Charles-Albert Saint-Gria est mort depuis longtemps, je crois qu'on peut dire sans offenser votre modestie que vous l'avez beaucoup aidé, que vous l'avez aidé dans des moments difficiles et que sans vous, il aurait peut-être passé plus souvent le temps à ne pas manger.
Oui, c'est vrai, n'est-ce pas qu'avec moi, il trouvait une petite amitié, une compréhension. Et il est arrivé que des fois, il avait un petit moment, pas de cafard en somme, mais des moments où l'humeur est moins mauvaise. Et j'avais toujours le mot de réconfort qu'il lui fallait. Et il était très content.
Quels amis venaient avec lui, Bruno Charpentier?
Il avait beaucoup d'amis, notamment le baron Mollet, le baron Jean Mollet, ex-ancien secrétaire de feu Guillaume Apollinaire. Il y avait aussi l'américain Manray, qui vient toujours de nos jours. Il y avait quelquefois ses amis, M. Carco, M. Jacques Prévert.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était le plat, l'un des plats, les plats préférés de Charles Albert?
Oui, M. Charles Albert, n'est-ce pas, était un gourmet en somme, c'est un connaisseur. Il aimait beaucoup les belles choses, notamment le lundi, il venait pour le petit salé, qui était garni avec des choux ou avec des lentilles, et le jeudi pour le pot-au-feu. Et quand il venait, n'est-ce pas, il me faisait un signe avec sa canne, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de le recommander en cuisine, ce que je faisais toujours.
Que buvait-il avec le pot-au-feu ou le petit salé, de la bière ou du vin?
Oh non, M. Sangria, n'est-ce pas, lui, marchait comme il disait au Gros Rouge.
Toujours.
Il disait, n'est-ce pas, le vin populaire, la bouteille nationale.
Et le vin, le bon vin que l'on boit au Charpentier, incitait-il Charles Albert Sangria à donner des conseils, à vous donner des conseils?
Le repas terminé, n'est-ce pas, sans vin, enfin, comme il disait populaire, n'est-ce pas, bien avalé et dégusté, il se levait, prenait son éternelle gabardine, sa canne et son béret, et me remettant chaleureusement les deux journaux Figure littéraire et art, et me disait, Ernest, voici pour toi, instruis-toi, on n'est jamais assez instruit.
Mais il est bon de laisser pour quelques instants la plume de Charles Albert décrire Paris, et plus précisément le quartier Saint-Sulpice. Ses notes, exquises de poésie et de justesse, seront lues par Charles Torzmann.
Je considère comme une information de tout premier ordre celle qui me parvient, qu'à la demande de clients anciens et sérieux, l'hôtel Ritz de Paris vient de supprimer le chauffage central, comme étant une barbarie amollissante, oui, un paganisme, pour rétablir dans les chambres et les appartements des petits poêles individuels d'un modèle primitif incomparablement perfectionné que partout on lance. Je considère ceci comme un succès et le premier pas vers un nouvel esprit, comme une réaction contre la tyrannie d'un confort théorique que les pays parvenus et les villes parvenues voudrait rendre obligatoire. C'est en effet une véritable campagne contre le faux luxe qui s'impose. On va se remettre à porter un seul vêtement et un seul chapeau, comme autrefois, jusqu'à l'usure extrême, du linge, sinon sale, tout au moins humanisé. Et puis, j'espère aussi qu'on va se remettre à construire des maisons à un seul étage, ou à deux étages, avec des petits jardins, qu'on ne blanchira pas continuellement les murs et qu'on laissera de la terre dans les rues. Il n'y a dans ce qui est moderne que ce qui est volontairement primitif, qui soit infiniment civilisé. Trois petites chaises sont à vendre. C'est du Louis XIV rustique. L'une est un petit peu plus haute que les deux autres. Le dossier est un exquis rectangle. Elles sont là, exposées depuis hier, sur le trottoir parisien où passent des chats. Et personne ne les voit, et personne n'en veut. Et c'est pour moi, qui suis pauvre et dois attendre, un grand bonheur. L'antiquaire est un homme parfait. Le prix qu'il en demande, consolidé et ciré, est ridicule. Je serais fou si j'avais de l'argent de ne pas les acheter. C'est beau, les meubles archétypes et méritant par un format inconfortable. Il faut qu'un siège soit petit. L'âme est toute rafraîchie. Je vois des enfants masculins en robe de mousseline attendre, rentrant des verdures. personne ne saisit. Je suis très heureux d'être seul dans ma certitude. La soif des acheteurs, c'est un Louis XIV solennel qui craque. Ils ne savent rien. Le seul siège possible de cette époque est le Louis XIV d'antichambre, de bonne, de marmiton et d'infant. C'est suave, simple, désirable, éternel.
Il était naturel et il m'a paru indispensable que Charles-Albert Saint-Grillard fût représenté dans cette émission par un membre de sa famille. C'est pourquoi j'ai prié Mme Hélène Guen-Saint-Grillard de parler de son oncle, de l'évoquer ici.
Mes premiers souvenirs de séjour avec mon oncle à Paris datent de l'époque où nous étions en pension. Mon père nous avait mis à Agnières chez les Dominicaines et Charles-Albert était notre correspondant. Alors il nous faisait sortir, et grâce à lui, au fond, j'ai connu toute la fin de Montparnasse, parce qu'il nous emmenait, lui n'avait pas du tout l'intention de changer sa vie pour nous. Il venait nous chercher, il nous emmenait à Montparnasse, et là, nous avons rencontré tout le monde, Sandra, beaucoup, nous avions beaucoup dîné très souvent chez Abdul, nous avons vu beaucoup de monde. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si je les ai vus avec Modigliani, il parlait très souvent de Modigliani. Une grande admiration pour lui, non pas parce qu'il était peintre, parce qu'il buvait très bien. Et il y avait des soirées qui se terminaient très tard chez Abdul. Il y avait un Américain, Brooks, qui était assez drôle. Il y avait un Espagnol, pour qui il y avait une grande admiration, qui était Ortiz. Et ces messieurs aimaient beaucoup aller faire des parties de campagne, tout à fait comme des midinettes ou des mini-pinsons. Alors on s'en allait à Clamart, on s'en allait à Robinson, c'était vraiment des tournées un peu de bistrot, ils n'allaient guère plus loin. Mais ce qu'ils aimaient, c'était s'asseoir dans la verdure. Charles-Albert adorait s'asseoir dans les prés, et avec un verre à la main, et discourir toute l'après-midi. Ce qu'on faisait aussi quelquefois, où ils nous emmenaient, c'était à Montmartre le soir. C'était la montagne pour eux, ils respiraient l'air pur. Et alors, je me souviens d'une soirée avec Lascaux, où Lascaux descendait assis toutes les marches autour du Sacré-Cœur, en déclamant, je sais pas, il est plus difficile pour un père de chercher dans la cité une aiguille qu'une aiguille perdue. C'était très embrouillé, et pour moi, j'ai gardé un souvenir très embrouillé de cette histoire. Et ils allaient au Chevalier de la Barque, qui est une rue qui est complètement disparue et démolie maintenant, où il y avait dans un vieux bistrot un plafond peint par Derain, et où il y avait des chanteurs assez invraisemblables, genre Bruant, qui arrivaient. Mais c'était... moi, j'ai gardé un souvenir très, très amusant, mais un peu brumeux, mais très amusant de ce temps-là. Ensuite, j'ai vu mon oncle, moi, je n'étais pas toujours à Paris, mais avant mon mariage, une année, j'avais un petit appartement au boulevard Pereire, où, au fond, je tenais table ouverte pour mes amis un jour par semaine. Charles-Albert venait très souvent. Et là, il y avait Louis Saloul, qui est mort maintenant. Antonin Artaud venait quelquefois, disputait abondamment avec Charles-Albert. Il y avait Robert de Noël aussi, et Aloïse Bataillard. Enfin, toute une bande... Jean Follat. Alors, Jean Follat nous faisait une cuisine très divine. Tous ces gens buvaient terriblement, au fond. Je me rends compte maintenant. C'était assez affolant. Mais moi, j'allais chercher des bouteilles au bistrot et puis ils buvaient tant qu'ils voulaient. Et Charles-Albert, lui, ne prétendait manger que des nouilles à l'époque parce qu'il croyait... Parce qu'il était très fort sur les maladies, Charles-Albert. Il croyait toujours que... Tout ce qu'il lisait sur les prospectus des maladies, il était persuadé qu'il les avait. C'est une époque de nouilles. Il les mangeait toutes et... Mais pas sans sauce, il ne voulait pas des choses impossibles. Il pensait que l'alcool faisait tout passer. Mais évidemment, je l'ai vu plusieurs fois aussi avec Cocteau. Il y avait aussi des histoires sanglantes avec Cocteau. Mais Cocteau admirait beaucoup Charles-Albert. Moi, je vois, j'ai regardé des dédicaces de livres, des lettres élogieuses, enfin, un livre encore au plus grand de nous tous, Charles-Albert Saint-Grillard, enfin, signé Jean.
venez d'entendre Charles-Albert Saint-Grillat à Paris, une émission de Pierre Minet, dont nous vous avons présenté aujourd'hui la première partie avec Mérode Guevara, Georges Huniet, Georges Borgeot, Madeleine Bariatinski, Jean-Marie Dunoyer, Yvonne Rebetet, Jean Follin, Ernest Galinon, Hélène Saint-Grillat et la voix de Charles-Albert Saint-Grillat. Réalisation Michel Duplessis.